maintenant les ateliers radiophoniques de Canal B.
Canal B, radio curieuse.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes des élèves de première AP, aménagement paysager, du lycée agricole La Lande de la Rencontre à Saint-Thomas-du-Cormier.
Avec Mesdames Gigou et Canton, nos professeurs d'histoire et de documentation, nous avons travaillé un projet radio.
Au début, il a fallu qu'on se mette d'accord sur le sujet dont on voulait parler. Certains voulaient rester sur notre univers de travail au lycée, d'autres voulaient profiter des séances d'atelier radio pour découvrir d'autres sujets.
Vous allez donc entendre trois thèmes. Jules, Théo et Owen ont décidé de parler de notre formation en lien avec le paysage. Ils ont interviewé notre professeur d'aménagement paysager, Monsieur Le Chartier.
Romain, Owen, Enzo et Yassir, fans du ballon rond, ont réfléchi à l'impact du foot sur l'environnement et plus précisément à l'empreinte carbone du Stade Rennais.
Archimède, Axel et Thomas ont choisi de parler d'art. Intrigués par le marché de l'art contemporain et les sommes astronomiques dépensées autour de lui, ils ont réalisé l'interview de Marion Charlemagne, médiatrice au Musée des Beaux-Arts de Rennes.
On espère que notre émission vous plaira. Bonne écoute!
On va commencer avec Jules, Théo et Owen.
Non, seulement Owen et Jules, car Théo n'est pas présent aujourd'hui.
Élève dans la filière aménagement paysager, nous avions envie de vous faire partager nos interrogations sur l'impact climatique dans la filière du paysage.
Le travail de paysagiste est touché par le changement climatique. La croissance des plantes, des arbres et des fleurs peuvent être affectées par des variations des conditions météorologiques causées par les changements climatiques. Les paysagistes sont donc obligés de s'habituer à des plantes plus résistantes à la chaleur, à la sécheresse ou à des pluies abondantes.
Le réchauffement climatique peut entraîner une augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes tels que les tempêtes, les inondations ou les sécheresses, ce qui peut endommager les jardins et les espaces verts aménagés par les paysagistes. Les aménagements doivent être plus résistants et durables pour faire face aux phénomènes climatiques de plus en plus fréquents.
Les clients peuvent également modifier leurs habitudes et leurs préférences en matière d'aménagement paysager en raison du réchauffement climatique. D'autres peuvent être plus sensibilisés à l'écologie, à la biodiversité, ce qui encourage les paysagistes à offrir les solutions respectueuses de l'environnement et qui favorisent la protection de la nature.
Le travail du paysagiste est affecté par le réchauffement climatique, exigeant une adaptation aux nouvelles conditions climatiques en privilégiant les aménagements durables et résilients et en répondant aux attentes croissantes des clients en matière de prévention de l'environnement.
Et maintenant, on vous propose d'écouter l'interview de notre professeur, Monsieur Le Chartier. Ah bonjour, je m'appelle Ewen Guédeux. On est ici pour interviewer un professionnel dans l'aménagement paysager.
Et moi, c'est Jules. Je suis en première AP et on va interviewer Monsieur Le Chartier, notre professeur d'aménagement paysager.
Moi, je m'appelle Théo et je suis aussi en première AP. Donc, tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter, Monsieur Le Chartier ?
Donc bonjour à tous, donc moi effectivement je suis enseignant en aménagement paysager au lycée de la Lande de la Rencontre. J'enseigne auprès de CAP et de Bac Pro, les techniques d'aménagement.
Depuis combien de temps enseignez-vous dans ce lycée ?
Alors moi je suis arrivé seulement l'année dernière et j'ai enseigné avant pendant 10 ans en CFA.
Quelles études avez-vous faites ?
Donc moi j'ai fait un BTS en aménagement paysager et j'ai poursuivi sur une licence pro en infographie paysagère.
Est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est un peu le dernier diplôme que vous nous avez cité ?
Donc l'infographie paysagère, ça consiste en la réalisation de plans de jardin, en utilisant des outils infographiques, donc des montages, des plans techniques de réalisation et aussi la 3D.
Pourquoi avez-vous choisi cette filière ?
Alors, moi, j'ai toujours été passionné par la nature, par les végétaux, les jardins. Et donc, après mon bac, alors j'ai fait un bac scientifique, j'ai décidé voilà, de me tourner vers cette spécialité. Et très rapidement, ensuite, je me suis tourné vers l'enseignement, parce que j'aimais le contact avec les élèves, j'aimais transmettre. Et donc, voilà, c'est pour ça que je suis là. Maintenant.
Quelles études peut-on faire après le bac pro aménagement paysager ?
Après le bac pro, il y a plusieurs possibilités. Soit la possibilité de poursuivre sur des certificats de spécialisation, donc par exemple en maçonnerie paysagère, en élagage. Donc ça, c'est des études relativement courtes mais très professionnalisantes, donc sur un an. Sinon, l'autre possibilité, c'est de se tourner vers des BTS, donc BTS en aménagement paysager, et pourquoi pas après poursuivre vers des licences ou des masters, donc qui peuvent conduire à des postes d'ingénieur ou d'architecte.
Du coup, comme vous avez pu un peu le préciser, il y a beaucoup de débouchés dans cette filière.
Donc oui, effectivement, à l'heure actuelle, les entreprises recherchent des salariés, de la main-d'œuvre dans tout type de secteur, des emplois très qualifiés, moins qualifiés. Mais à l'heure actuelle, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de demandes et il y a un vrai engouement pour les jardins.
Est-ce que vous pouvez nous détailler les matières de la filière AP ?
Donc au niveau du bac pro, il y a à peu près la moitié en matière générale, donc français, histoire géo, anglais, mathématiques, et puis des matières techniques. Donc en technique, on a trois grands modules. On a un module sur la connaissance des végétaux. Donc ça, c'est vraiment la base de notre métier, hein, de savoir connaître, reconnaître et utiliser les plantes. Un module sur l'entretien. Donc la tonte, la taille, le désherbage, le débroussaillage, et puis un module sur la création paysagère, avec notamment le travail du bois, la maçonnerie, l'électricité, donc tous les types d'aménagements que l'on peut faire dans les jardins.
Que pouvez-vous penser de l'impact du changement climatique sur la filière ?
Donc je parlais là juste avant notamment des végétaux, on se rend compte effectivement qu'il y a des grosses évolutions là sur les dernières années et ça s'accélère. Donc la connaissance des végétaux elle est primordiale et donc vous serez en tant que futur professionnel amené à choisir des végétaux qui seront résistants à la sécheresse et des végétaux qui puissent aussi s'adapter des fois à des changements climatiques très forts sur des courtes périodes.
Et est-ce que ça modifie votre façon d'enseigner ? Si oui, de quelle manière ?
Alors, forcément, hein, nous, sur notamment quand le choix du végétal, sur la connaissance des végétaux, on s'adapte. Alors, ça fait partie aussi des référentiels hein, de formation. Donc sur le végétal mais aussi sur la création, c'est-à-dire qu'on essaye de vous inculquer des choix nouveaux, des perceptions nouvelles aussi du paysage, c'est-à-dire que le jardin comme on a pu le connaître carré, droit, est-ce que c'est l'avenir, je suis pas sûr, donc c'est plutôt comment favoriser la nature et essayer d'avoir le moins d'impact possible et donc ça on essaye de vous le transmettre en permanence dans nos cours.
Est-ce que certaines espèces de plantes et de végétaux sont vouées à disparaître avec le changement climatique ?
Ah, oui, on le constate. Hein, c'est-à-dire que sur les années de très forte sécheresse, hein, on voit des sujets qui sont pourtant âgés dépérir. Donc notamment les chênes, hein, le chêne pédonculé, à l'heure actuelle, on commence à voir qu'il souffre. Est-ce que dans 20 ans, on en aura encore ? C'est pas sûr. Donc, il risque d'y avoir des gros bouleversements en termes de paysage, en termes de manière de faire aussi. En tant que jardinier, on se doit en fait de réfléchir et d'anticiper ces changements. Et donc, vous serez vraiment amené à concevoir des jardins différemment.
Et je pense qu'on a fait le tour des questions. On vous remercie pour cette interview.
Merci à vous.
Et bonne journée à vous.
Merci. À tout à l'heure.
Oui.
Merci les gars. On poursuit avec Romain, Owen, Enzo et Yassir et l'empreinte de carbone du Stade Rennais.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes Romain, Yassir et Owen. Et aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur, le football. Et surtout de notre équipe préférée, le Stade Rennais.
Il y a quelques semaines de ça, on a vu passer une information qui nous avait un peu choqués. Lors de son déplacement au Havre pour un match de Ligue 1, les joueurs et le staff du Stade Rennais se sont déplacés en avion pour disputer la rencontre, alors que ce même trajet en car aurait pu se faire en 3 heures environ, contre 1 heure d'avion.
À partir de ça, on s'est penché sur le taux de COD rejeté par le club avec tous les déplacements qu'il fait pendant une saison. En plus, on a pu voir que le Stade Rennais allait très prochainement avoir son centre d'entraînement agrandi et que donc des travaux allaient bientôt commencer à l'appui verdière.
En tant qu'élève en aménagement paysager, on a été intrigué par l'extension du centre d'entraînement. On a fait beaucoup de recherches pour trouver les plans d'architectes qui s'occuperont des travaux et on a même trouvé l'étude complète de l'appui verdière 2, fournie par le club et le cabinet d'architecture. C'était difficile aux premiers abords de tout comprendre parce qu'il y avait énormément de termes techniques.
On a aussi essayé de contacter l'entreprise Bassinet Turquin Paysage qui s'occupera de tout l'aménagement paysager du projet. Mais malheureusement, on n'a pas eu de retour favorable pour une interview. C'est dommage parce que ça aurait été l'occasion de parler à des professionnels du métier.
Durant nos recherches sur l'appui verdière 2, on a pu voir que le projet avait pris du temps à être mis en place afin de pouvoir construire quelque chose en lien avec les problématiques environnementales actuelles.
Les architectes ont réalisé des bâtiments avec une ossature en bois, des arbres ont été plantés, les toits seront végétalisés et des matériaux biosourcés ont été choisis pour la construction des bâtiments.
C'est super intéressant, notamment parce qu'on voit que le club prend en compte les problématiques environnementales de notre temps.
Dis-moi Yassir, est-ce que tu sais combien de fois le Stade Rennais a pris l'avion la saison dernière sur tous ses déplacements en Ligue 1? Parce que même si le club fait des efforts, il en reste encore énormément à faire.
Non du tout, tu sais toi?
L'année dernière, sur les 19 voyages effectués, les Rouges et Noirs ont pris l'avion 14 fois.
14 fois?
Ouais, et ça... C'est que l'équipe professionnelle en Ligue 1. Ce sont des trajets d'environ 1h10 de vol, et bien évidemment en aller-retour. Les 5 autres déplacements se sont faits soit en train pour le match à Paris, ou bien en car pour affronter Nantes, Brest, Angers et Lorient.
Et concrètement, en termes d'empreinte carbone, ça donne quoi en chiffres?
Eh bien, j'ai calculé. Pour un trajet aller-retour Rennes-Monaco d'environ 1h40 de vol, l'empreinte carbone du vol sera d'environ 7,3 tonnes de CO2. Et au plus proche en termes de distance, c'est-à-dire le trajet Rennes-Auxerre, il aura lui une empreinte carbone de 5 tonnes. La problématique des déplacements, en avion notamment, est loin d'être résolue dans le football français. On espère qu'à l'heure où la sobriété énergétique est au cœur des débats, le Stade Rennais réussira à s'améliorer en trouvant des solutions autres que l'avion.
Mais les gars, vous avez vu ce qu'il s'est passé à Brest avant le match contre Monaco?
Non, dis-nous.
Il y a un hélicoptère de la Marine nationale qui a livré le ballon du match au moment du coup d'envoi. C'est dingue quand même, non?
Oula, oui. Alors qu'on prône des valeurs écologiques dans le football pour réduire son impact au maximum sur l'écologie, on autorise ce genre d'action?
C'est dingue!
Rappelons néanmoins que cette action a été réalisée afin de rendre hommage aux sauveteurs en mer de la Marine nationale et de la SNSM.
Super. Mais un discours avant le match et un coup d'envoi fictif auraient pu suffire.
Malgré tous les discours que l'on peut entendre sur l'écologie dans le football, et notamment sur le football français, on constate qu'il y a encore énormément de progrès à faire et que les consciences vont devoir être éveillées chez les acteurs du football français. Merci de nous avoir écoutés. C'était Yassir, Romain, Owen à l'enregistrement. Et on a une petite pensée pour Enzo qui n'était pas là car il était malade.
Bisous.
Pause musicale sur Canal B dans l'émission des premières Aménagements paysagers. On écoute Iggy Pop, The Passenger.
La la la. city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight. How he rides. Oh, the passenger. And he rides and he rides. He looks through his window. What does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight.
Iggy Pop, The Passenger sur Canal B. Retour au lycée agricole, la lande de la rencontre à Saint-Aubin-du-Cormier.
Et on va terminer notre émission avec Archimède, Axel et Thomas qui nous parlent d'art.
Nous sommes Axel, Thomas et Archimède qui est malade, on l'excuse. Nous avons travaillé sur l'art.
On a choisi ce sujet parce qu'au début, on voulait parler du métier du paysagiste et on en avait marre de parler de ça et on voulait parler d'un sujet que l'on voyait pas beaucoup, d'où le qu'est-ce que l'art.
Pour y répondre, nous sommes intéressés de plus près au sujet. Nous avons dû nous poser quelques questions.
Alors, qu'est-ce que l'art ? L'art est une activité, le produit de cette activité ou l'idée que l'on s'en fait, qui s'adresse délibérément au sens, aux émotions, aux intuitions et à l'intellect.
Quand, où est apparu l'art ? Au début du Paléolithique, 35 000 ans avant notre ère. L'art est arrivé en Afrique, dans les grottes et les gouffres.
On ouvre mardi soir il est vendu.
Bon, on y va ? Ça fait une heure que vous êtes scotché là. Faut changer de chaîne à un moment, là.
Beaucoup de sérénité qui se dégage de ce tableau. Et même une certaine violence.
Je trouve très touchant aussi.
C'est touchant des taches rouges sur un fond blanc ? Mais ça coûte combien, ça ?
Je crois qu'il est à 30 000 euros. Mais je peux vérifier si vous voulez.
Ouais, vaut mieux vérifier quand même. Parce que ça me paraît exagéré comme prix. Vous allez pas acheter cette croûte-là à 30 000 euros ? C'est pas possible, ça ?
Ah bah si, si, c'est possible.
Mais le mec, il a saigné du nez sur un fond blanc, il demande 30 000 euros !
Dites-moi, Adrice, à votre avis, pourquoi les gens s'intéressent à l'art ?
Je sais pas, c'est un business ?
Non. C'est parce que c'est la seule trace de notre passage sur Terre.
Une connerie, ça, Philippe. Moi, pour 50 euros, je vais chez Casto et je vous la fais, la trace de mon passage sur Terre. Hein. Je vous mets même du beurre au bonus, si vous voulez.
Allez, arrêtez de dire n'importe quoi, donnez-moi un chocolat.
Non.
Donnez-moi un chocolat.
Pas de bras, pas de chocolat. C'est une vanne, hein? Non, je déconne.
Ah, c'est une blague.
Ben oui, c'est une blague.
Ah, c'est une blague.
Elle est bien, quand même.
Très bonne, c'est une très bonne blague.
C'est une vanne connue. Pas de bras, pas de chocolat, mais avec vous.
Allez.
Elle est chambée.
C'est une bonne blague.
Ben oui. Pas de bras, Philippe. Je vais la faire à Marge Simpson. C'est dommage qu'il n'y ait pas de public.
Pardon, j'ai fait une petite erreur sur le prix.
Ah, voilà.
Oui, il est à 41 500 euros.
Je le prends.
Ah bon ?
Pourquoi les riches investissent dans l'art ? Certains investisseurs considèrent même l'art comme une valeur refuge au même titre que les métaux précieux. Ce placement financier permet donc d'allier plaisir du collectionneur et rendement financier.
Qui fixe le prix de l'art ? C'est l'artiste, la galerie ou le marchand d'art qui définit le prix d'une œuvre d'art.
Mais le marché de l'art est victime de son succès. Très lucratif, le marché de noir d'objets d'art et d'antiquités a prospéré notamment grâce à l'engouement des acheteurs. Au manque de législation, à la complicité d'acteurs du secteur, à la multiplication des pillages dans les pays en situation de conflit et au développement des plateformes de vente en ligne.
64 milliards de dollars. C'est le montant qu'a généré le marché international de l'art et des biens culturels en 2019, selon le Global Art Market Report.
En octobre 2019, l'opération Medicus visant la Bulgarie a permis à Europol de saisir 4600 objets et d'arrêter 8 personnes. Un mois plus tard, 10 000 objets étaient saisis et 23 personnes arrêtées au cours d'une opération visant cette fois l'Italie.
Le marché de l'art dépasse en 2022 son niveau d'avant-pandémie. La croissance du marché est venue du haut de gamme, alors qu'en Chine continentale et à Hong Kong, les ventes ont diminué à cause des stratégies très strictes de lutte contre le Covid-19. En revanche, le marché américain a repris avec force, assurant à nouveau son premier rang sur le marché de l'art mondial.
Le marché de l'art a progressé légèrement l'année dernière par rapport à 2021. dans un contexte économique incertain et avec le retour de la guerre en Europe.
Le marché continue d'évoluer et de s'adapter à son époque. Du côté de l'art numérique, les choses progressent malgré l'hiver crypto, la chute brutale des crypto-monnaies qui simulait ce segment. La popularité de l'art numérique, cinématographique et vidéo a considérablement augmenté, passant de 1% des ventes en 2021 à 5% l'an dernier.
L'art numérique soutenu par les NFT, ces certificats d'authenticité numérique pour des contenus en ligne qui ont connu un engouement certain, sont responsables en grande partie de ce changement et montrent comment le marché continue d'évoluer et de s'adapter à son époque.
Le trafic d'art, un marché illégal mais lucratif. Le marché de l'art, tout comme les autres marchés où s'échangent des biens, ne manque pas de vendeurs et d'acheteurs peu scrupuleux tentés de passer par des canaux illégaux et qui profitent parfois du manque de législation pour s'enrichir ou acquérir des œuvres d'art.
Depuis quelques années, l'intensification de ce marché a commencé à inquiéter la communauté internationale et notamment l'organisation onusienne pour l'éducation, la science et la culture qui s'est donnée comme fer de lance la lutte contre le trafic de biens culturels. Cette inquiétude est légitime. L'UNESCO estime que le commerce illégal d'œuvres d'art engrange chaque année pas moins de 10 milliards de dollars.
On a trouvé sur le site de France TV Info une autre info. En 2022, le marché de l'art dépasse son niveau d'avant pandémie, 67,8 milliards de dollars. Le marché de l'art a progressé légèrement l'année dernière par rapport à 2021, dans un contexte économique incertain et avec le retour de la guerre en Europe.
On a interrogé une IA, notre question était « Pourquoi les riches collectionnent-ils l'art contemporain ?» L'IA nous a répondu « Les riches collectionnent de l'art contemporain car cela leur permet d'exprimer leur individualité et leur goût artistique. L'art contemporain est souvent considéré comme avant-gardiste et novateur, ce qui attire ceux qui cherchent des expériences artistiques uniques. De plus, la collection d'œuvres d'art contemporain peut être un moyen de montrer leur statut social et leur richesse. » Certains collectionneurs organisent même des expositions privées pour partager leurs passions avec les autres.
Cela nous montre un exemple sur le mode de vie du riche, même de l'ultra-riche. Nous avons interrogé Marion Charlemagne, médiatrice au Musée des Beaux-Arts de Rennes.
Allô ?
Oui, bonjour Marion, c'est Morgane.
Oui, bonjour.
Ça va, je te dérange pas ?
Non, t'inquiète, je cumule le truc en même temps, mais ça va le faire, t'inquiète.
Donc je suis avec, je suis au lycée agricole là, à Saint-Aubin, je suis avec les trois garçons qui s'interrogent sur l'art. On peut te poser les questions maintenant ?
Oui, pas de soucis.
Bon, je vais tourner le téléphone vers eux.
Bonjour.
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 On va se présenter. Alors je m'appelle Thomas, je suis en premier AP et on est à Saint-Aubin-du-Cormier à la lampe de la rencontre au lycée agricole.
Bonjour, moi c'est Archimède, premier AP au lycée La Lande de la Rencontre.
Et moi c'est Axel, premier AP au lycée La Lande de la Rencontre.
Oui, on avait plusieurs questions à vous poser sur l'art. Et pour commencer, est-ce que c'est possible de vous présenter
Oui, alors moi je suis Marion Charlemagne et du coup je suis coordinatrice culturelle et chargée de médiation au Musée des Beaux-Arts de Rennes. Et je travaille spécifiquement au projet de nouveau musée qui va ouvrir dans le quartier de Maurepas.
On avait aussi une autre question, c'était en quoi consiste votre métier ?
Mon métier ? Alors, il n'y a pas vraiment d'indication très précise. En fait, ça peut varier. C'est-à-dire que ça peut être monter des projets avec des partenaires, réaliser des visites, les créer. Ça peut être aussi essayer de créer des supports de visites, donc des livrets, des guides. C'est assez varié. Donc, il n'y a pas de journée type, par exemple.
Quelles sont les études nécessaires pour le devenir ?
Les études nécessaires, en fait, tout dépend. On va dire que médiateur, c'est pas forcément dans un musée. On va dire que moi, c'est médiatrice culturelle, mais on peut être médiateur dans d'autres secteurs. Pour être médiateur culturel, l'idéal, c'est de faire des études en histoire de l'art, en histoire. Et puis, après, de s'orienter vers, par exemple, un master en médiation. Mais le mieux, en fait, c'est de se spécialiser vers un peu la structure. Selon la structure où on veut aller, par exemple, moi, c'est un musée des beaux-arts, donc c'est plutôt en art. Mais si je veux travailler, par exemple, dans un château, là, il faut plus que ce soit lié au patrimoine bâti. Donc, c'est vraiment s'orienter le plus précisément possible.
Là, on va vous poser plus des questions plus typées art que sur vous. Qu'est-ce que l'art pour vous ?
Qu'est-ce que l'art ? Pour moi, l'art, c'est juste un moyen de s'exprimer. qui est à la fois universel et très personnel.
On voudrait savoir pourquoi l'art coûte-t-il si cher?
Pourquoi l'art est-il si cher? Déjà, tout l'art n'est pas forcément cher. En fait, ce qui fait la valeur de l'art, ça va être, par exemple, la personne qui l'a fait, et ça peut être aussi tout simplement la mode, c'est-à-dire que un style d'art va être en vogue à un moment, donc les œuvres vont être très chères, et à un autre moment, la mode va changer, donc cette œuvre va un peu baisser. En fait, c'est quelque chose de très aléatoire, qui varie selon les époques, les personnes, et on va dire qu'une œuvre aujourd'hui très célèbre peut être démodée d'ici quelques siècles ou quelques décennies.
Pourquoi les personnes riches investissent dans l'art ?
Les personnes riches investissent dans l'art, je pense que c'est parce que déjà c'est un moyen pour eux de donner une bonne image, de montrer que ils soutiennent la culture, ils soutiennent les artistes. Et puis il y a un aspect un peu plus pécunier, c'est que pour eux c'est des investissements intéressants. Donc ça peut être aussi par goût, mais c'est un moyen vraiment un peu de défiscaliser une partie de leur richesse. Donc je pense qu'il y a ces deux aspects-là.
Qui fixe le prix de l'art ?
Qui fixe le prix de l'art ? Ça peut être souvent, en fait, quand une œuvre, par exemple, va aller dans une maison de vente, donc on va vouloir la vendre, et ça va être des commissaires, des personnes qui sont vraiment spécialisées sur la période, la technique, l'artiste, qui vont l'évaluer. Mais en fait, les montants sont assez aléatoires parce que entre une estimation et par exemple un prix de vente, ça peut passer du simple au double, au triple, voire plus. Et ça peut varier aussi. Nous, par exemple, on a des œuvres au musée qui sont estimées à une date, mais si on les réestime, par exemple, aujourd'hui, le prix aura totalement changé parce que ça évolue selon plein de critères.
Est-ce qu'il existe un trafic d'œuvres d'art ?
Est-ce qu'il existe un trafic d'œuvres d'art ?
Oui.
Oui, oui, comme dans un peu tous les domaines, on va dire que quand il y a des choses qui ont de la valeur, ça intéresse aussi des personnes qui sont pas forcément honnêtes. Donc c'est un enjeu pour nous, par exemple au musée, parce que l'idée ça va être d'authentifier les œuvres, de les protéger aussi, et de faire des recherches sur elles. En fait, plus on apprend de choses sur une œuvre, plus on élimine un peu les risques qu'on puisse, par exemple, faire passer un faux pour un vrai. C'est vraiment la recherche et la conservation qui permettent d'éviter un petit peu la circulation de faux. Mais comme dans tous les domaines où il y a de l'argent en jeu, forcément, il peut y avoir du trafic.
Quelle est l'œuvre d'art la plus chère du musée ?
La plus chère, je dirais que c'est notre chef-d'œuvre, c'est le nouveau-né de Georges de la Tour. Parce que au niveau des estimations, alors nos estimations, elles datent un peu, on n'en fait pas tout le temps, mais je crois que c'est celui qui est actuellement le plus cher. Après, il y a d'autres œuvres aussi qui ne sont pas forcément les chefs-d'œuvre, mais qui vont valoir très très cher. Par exemple, les Picasso, ils vont valoir très cher parce que c'est de Picasso.
Et ils datent de quelle année ?
Le nouveau-né, il date des années 1640. Je crois que c'est 1649. L'estimation, elle date de 2014, je crois. Et le chiffre, je dirais, alors de mes souvenirs, ça doit être 60 millions, quelque chose comme ça.
Est-ce que tu as une recommandation d'un artiste à nous faire ?
Par exemple, un artiste qui n'est pas présent et que j'aimerais bien qu'il soit présent ?
Ouais, exactement.
Un artiste qui nous manque. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Qu'est-ce qu'on n'a pas comme œuvre ? Par exemple, alors c'est un peu des artistes, on va dire, très connus, très clichés, mais par exemple, on n'a pas de Monet. Et ça pourrait être sympa, et c'est comme avoir un Caravage pour être avec le Georges de la Tour. Je trouve un petit Caravage, ça serait pas mal.
Que pensez-vous de l'œuvre d'art avec la banane et le scotch?
C'est pas, on va dire que moi personnellement, c'est pas mon style préféré. C'est pas les œuvres qui vont m'émouvoir ou m'interroger le plus, mais ça m'intéresse toujours dans le sens où il y a une réflexion derrière, et je trouve que c'est toujours révélateur d'une époque. C'est-à-dire que même si une œuvre peut nous paraître totalement inutile ou totalement bizarre, je me dis ça reflète toujours quelque chose de nous. Et donc c'est pour ça qu'il y a un intérêt. Et puis c'est pas parce que moi ça me parle pas qu'à d'autres personnes ça va pas parler. Donc même si j'affectionne pas, je me dis qu'il y a toujours un intérêt, et que c'est en faisant un peu des recherches sur le contexte aussi. Ça m'est arrivé de trouver des œuvres, par exemple au musée, je suis pas totalement fan. Et en faisant les recherches derrière, en apprenant un peu la technique, l'artiste, j'y ai pris goût et maintenant je les apprécie plus. Il ne faut pas s'arrêter à nos préjugés, il faut toujours creuser un petit peu et voir si au final on peut pas un peu changer d'avis.
Ouais, c'est bon pour nous, on a plus de questions à vous poser. Et on voudrait vous remercier pour, bon, pour votre interview, que vous avez pris, bah, le temps que vous avez pris pour nous.
Mais je vous en prie, j'espère que ça a été, que vous m'avez bien entendu.
Oui, ça va.
Merci,
à bientôt. Merci.
Au revoir. Merci, au revoir.
Notre émission est terminée. Merci de nous avoir écoutés.
Merci à nos enseignantes, mesdames Canton et Jégou, à monsieur Le Chartier et à Marion Charlemagne d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, et à Léonard et Morgane de Canal B.
À bientôt.
Bisous.
Nouvelle pause musicale sur Canal B, on écoute Lost in the Supermarket, The Clash. The Clash, Lost in the Supermarket. On retourne au lycée agricole La Lampe de la Rencontre à Saint-Aubin-du-Cormier avec une autre classe de première, les CGEA, conduite et gestion d'une entreprise agricole.
Bonjour, nous sommes les élèves de la classe de première CGEA, conduite et gestion d'une entreprise agricole, du lycée agricole La Lampe de la Rencontre à Saint-Aubin-du-Cormier.
Avec notre professeur documentaliste, Madame Canton, et notre professeur d'histoire-géographie, Madame Jégou, nous avons travaillé sur un projet radio.
Alors, de quoi allons-nous parler ?
Elisa et Maxence vont vous parler de leur filière agricole dans sa globalité.
Lucine et Svanil ont décidé de vous parler des races bovines.
Luna et Océane vous parleront d'un élevage caprin.
Et Justine, Célian et Alexandre vous évoqueront le futur de l'agriculture.
Pendant cette émission de radio, vous entendrez des interviews de professionnels.
Bonne écoute à vous !
Bonjour, nous sommes Elisa et Maxence, élèves de première CGEA, conduite et gestion d'une entreprise agricole. Le lycée La Lande de la Rencontre à Saint-Aubin-du-Cormier, où nous étudions, compte trois filières. Gestion des milieux naturels et de la faune, conduite et gestion d'une entreprise agricole et aménagement paysager. Entre nous, on s'appelle les écolos, les paysans et les jardiniers.
On sait ce que vous pensez de nous avec nos gros tracteurs, nos salopettes agricoles et nos bottes en caoutchouc. Mais peut-être que vous ne savez pas qu'ici, au lycée, on apprend aussi les gestions d'une entreprise. Comptabilité, gestion des animaux, etc. Alors, c'est quoi une journée type de stage ? Il est 6h du matin, première épreuve de la journée.
se lever pour faire la traite des animaux pendant environ 1h30. Bon, le temps de traite, il dépend de deux facteurs. Si les vaches sont bien réveillées, mais surtout si nous, nous sommes bien sortis du lit. Après la traite, on passe aux choses sérieuses, les veaux. On pense qu'ils sont tout mignons, tout petits, tout câlins, mais bon. Ça, c'est quand ils ont envie de manger. Sinon, ce sont des vrais lionceaux en cage, affamés depuis des semaines. Coups dans les genoux et entre les jambes. La langue pendante, filet de bave jusqu'aux bottes. Bref, une partie de plaisir pour bien commencer la journée, mais bon, ce n'est que le début. Après un café bien mérité, la journée continue avec distribution de l'alimentation des vaches. Ensuite, petit boulot dans les champs, mécanique, entretien des tracteurs, entretien des bâtiments, animaux, etc. Pour finir la journée, on repasse à nouveau sur l'épreuve de la traite. Cette fois-ci, les vaches sont énervées et elles ont les mamelles pleines. Les veaux, eux, ont le ventre vide. Vous imaginez bien que les complications du matin sont encore d'actualité. Le travail enfin terminé, on part dormir, exténué par la journée de travail. Et vous savez quoi ? Demain, bah, c'est rebelote.
Et au lycée, c'est quoi une journée type ? Nos journées au lycée sont chaque jour différentes. On a des cours avec des matières de lycée général, comme les maths, le français ou encore l'histoire géo. Mais en plus, on va avoir des matières dites techniques, comme l'agroéquipement, l'économie gestion, la science technique professionnelle, la science technique végétale et la science technique animale.
Mais je pense qu'il faut que tu expliques les matières techniques, parce que là, on a perdu quelques-uns de nos auditeurs.
Ah oui, mince, pardon. En agroéquipement, on voit le matériel agricole, comme les tracteurs. En économie gestion, on voit la gestion d'une entreprise agricole. En sciences techniques professionnelles, on sort identifier des animaux et des plantes. En sciences techniques végétales, on voit toutes les caractéristiques des plantes. Et en sciences techniques animales, on voit les caractéristiques des animaux. Nous avons choisi d'interviewer notre professeur d'agroéquipement, M. Gaillard. Nous vous proposons de l'écouter.
Bonjour.
Bonjour.
Première question, pouvez-vous vous présenter ?
Je m'appelle Jérôme Gaillard. J'ai 53 ans et je suis enseignant en agroéquipement au lycée de Saint-Aubin-du-Cormier, en Ille-et-Vilaine.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Je ne l'ai pas choisi tout de suite. Je l'ai choisi il y a une petite vingtaine d'années, après, comment dire, un crochet de parcours, on va dire ça, de parcours professionnel, et ça m'a beaucoup plu.
Quelle étude avez-vous faite ?
J'ai fait des études d'ingénieur agronome. J'ai intégré après une école d'ingénieur agronome à Nancy. Et puis, j'ai fait une année de spécialisation en machinisme agricole, en dernière année d'études d'ingénieur.
Quel a été votre parcours professionnel ?
Eh bien, jusqu'aujourd'hui, juste après avoir été sorti d'école, eh bien, vous ne devinerez jamais ce que j'ai fait. Les 6 premiers mois, j'ai été prof dans un lycée agricole du côté de La Motte-Servolex. La Motte-Servolex, c'est à côté de Chambéry, dans la montagne. Juste après, du coup, je suis parti au service militaire, je l'ai fait en Autriche, à Vienne. Ensuite, je suis rentré d'Autriche avec... j'avais ma future femme, qui a trouvé du boulot en Alsace, vous imaginez ? En Alsace, du côté de Strasbourg, ça s'appelle Saverne, chez un gros constructeur de machines que tu connais sûrement, Elisa, qui s'appelle Kuhn. Et donc, j'ai travaillé chez Kuhn, ensuite j'ai travaillé chez Massey Ferguson, chez Fendt, et puis ensuite chez Mayeux. Petit à petit, vous voyez, je me suis rapproché de l'Ouest. Et là, eh ben, j'ai vu un poste de prof à Merdrignac, dans les Côtes d'Armor. J'ai essayé, ça m'a beaucoup plu. J'ai passé le concours, et paf, depuis, je suis prof depuis donc 2006.
D'où vient cet attrait pour l'éducation ?
Plusieurs réponses. Une première réponse, j'ai quand même une maman qui était prof d'allemand. Deuxième réponse, quand j'étais en poste dans des boîtes de machinisme agricole, Kuhn ou Fendt ou autre, j'étais plutôt dans des bureaux à faire du projet, à aller au resto avec les commerciaux, bref. Et j'ai dit, j'ai envie d'avoir les mains sales et de mettre les mains avec les machines. Et puis la troisième réponse, c'est que je pense que les jeunes sont un peu comme du matériau, un peu comme du métal, si vous voulez. Il faut les chauffer un peu, les former, alors taper dessus, mais pas trop fort, hein, parce que le métal, il faut qu'il reste en bon état. Et puis pour pouvoir en faire des belles pièces, des jolies pièces. Et je pense que je pense avoir un peu de valeur ajoutée à essayer de les accompagner avec beaucoup d'optimisme en croyant vraiment dans leur avenir. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ce métier.
que deviennent vos élèves après leurs études?
Qu'est-ce qu'ils deviennent? Eh ben, c'est très très varié. Mes élèves qui sont dans le monde agricole, qui font des études de bac pro, conduite et gestion d'entreprise agricole, pour une part, eh bien, deviennent salariés d'exploitation. Pour une part, ont envie, ont des rêves d'installation en tant que patron de ferme et le deviennent. Pas tout de suite, forcément, mais ils le deviennent au bout de quelques années. Et puis, pour une part, eh bien, ils quittent complètement le monde agricole et ils vont faire complètement autre chose. Mais bon, ils ont eu un bac et puis ils se débrouillent après dans la vie avec beaucoup de capacité de rebondir. J'ai d'autres élèves qui font de la gestion des milieux naturels. Alors, eux sont plutôt des ouvriers spécialisés dans les milieux naturels, où ils travaillent dans les communautés de communes, ou pour le département, par exemple, ou pour des associations qui défendent un peu la nature. Ils se débrouillent aussi tout bien, un peu, par exemple, avec des tronçonneuses, c'est marrant. Et puis, enfin, marrant, tout est relatif, c'est dangereux, mais c'est un métier intéressant. Et puis, les paysagistes, eux, se destinent plutôt à être ouvriers paysagistes ou avoir leur propre entreprise de paysage pour entretenir et créer des jardins.
En fait, c'est beaucoup de diversité, quoi, en fait.
Il y a beaucoup de diversité. On pense que les élèves de lycée pro ont une voie toute tracée, toute simple. En fait, il y a plein de débouchés, de voies, et surtout plein de poursuites d'études aussi que j'ai pas dites. Mais il y a beaucoup d'élèves qui, finalement, après leur bac, continuent sur des BTS et même plus, hein, sur des licences, et quelques-uns même sur des écoles en bac plus 4-5. Donc, il y a plein de diversité, effectivement, dans les poursuites d'études après le bac.
Et suite à ce que vous nous avez dit par rapport à la filière CGEA, moi j'avais une question, c'est est-ce que l'enseignement en CGEA a évolué ces dernières années?
Oui, il n'arrête pas d'évoluer. Au départ, en CGEA, on apprenait un peu des recettes. Alors, voilà comment il faut faire. Vous appliquez telle méthode quand vous avez tel problème, et puis vous apprenez la méthode par cœur et ça marche à tous les coups. Et on s'est aperçu petit à petit, dans le lycée et puis en général au niveau du ministère de l'Agriculture et au niveau français, que quand on appliquait des recettes, eh ben, les recettes avec le changement climatique, par exemple, avec la mondialisation, avec tout un tas de contextes qui arrivent, elles ne fonctionnent plus toujours bien. Donc il faut plutôt apprendre maintenant aux élèves à s'adapter, à prendre en compte leur environnement et puis à se dire « Allez, je prends cette décision parce que ». J'ai tel et tel élément de décision autour de moi et que, du coup, je peux prendre la bonne décision. Donc, les choses ont bien évolué dans la formation des bacs.
Ah oui, c'est quand même quelque chose qui a beaucoup changé, quoi. Ça a beaucoup évolué, c'est ça?
Ça a beaucoup évolué depuis une dizaine d'années.
Ok. Et pour cette dernière question, on avait une question qu'on avait posée avec Elisa en commun, c'est avez-vous une anecdote à nous raconter, des bêtises d'élèves, des grands moments de complicité avec vos élèves ou autres, par là, que vous avez en tête et qui vous ont marqué, quoi?
Le tout dernier en tête, il est tout récent, puisque c'est la foire de Rennes, où on a passé avec quelques élèves très motivés un temps de solidarité avec les éleveurs bretons, en donnant un gros coup de main en se levant à 4h du mat', et en allant donner un coup de main sur des journées de... On va pas trop le dire parce qu'on n'est pas tout à fait conforme au code du travail. Et c'était des bons moments. Moi, je suis fier, vraiment fier de mes élèves. Et fier d'avoir pu participer aussi à ma petite hauteur, mais fier de leur travail surtout. Donc oui, c'est une anecdote toute récente de fierté.
Après, c'est ce qui fait la beauté du travail, quoi.
C'est pour ça qu'on le fait. C'est pas pour soi. Moi, si je vous raconte une deuxième anecdote, presque chaque fois que j'ai l'opportunité d'aller conduire un tracteur et d'avoir le plaisir de conduire un tracteur, pof, il y a un élève pas loin et je lui cède la place. C'est à lui d'apprendre, c'est pas à moi. Donc chaque fois, je suis un peu frustré parce que je peux pas conduire mon tracteur. Je gratte un peu le sol avec mes pieds, mais je suis tellement heureux de pouvoir transmettre le geste et l'apprentissage à l'élève que ça compense largement la petite frustration de ne pas pouvoir conduire.
Eh bien écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Et puis c'est un honneur d'avoir pu discuter avec vous par rapport à votre parcours.
C'est un honneur de la même façon pour moi. Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Bonjour, nous sommes Lucine Esvanil, élève de première CGEA. Nous avons décidé de vous parler des vaches. Mais attention, pas n'importe lesquels. Parmi les 25 vaches bovines que l'on trouve en France, nous avons jeté notre dévolu sur deux d'entre elles.
les jersiaises et les normandes. Pourquoi celles-ci? Parce qu'elles nous plaisent. Et la jersiaise est une crémière, ce qui est rare. Et la normande, elle, est une vache mixte. Elle produit à la fois du lait et de la viande.
Nous allons parler des races viandes laitières, d'où elles viennent, avec le cheptel français. Ensuite, nous allons parler de la production allaitante, avec la production laitière, et de la reproduction. Et pour finir, la jersiaise et la normande, nos petites chouchoutes. Nous commencerons à parler des différentes races et d'où elles viennent, c'est-à-dire les laitières. À l'ouest de la France, nous allons retrouver les Pieds Rouges, l'Holstein, ensuite aussi la Normande. Au nord, nous allons retrouver la Rouge Flamande, la Bleue du Nord. À l'est, nous allons retrouver la Brune, la Montbéliarde. Et ensuite, au sud, nous retrouverons l'Abondance et la Tarentaise. Le cheptel français en 1980. Le cheptel était un de 23 millions de bovins. En 2022, 40 ans plus tard, le cheptel n'est plus que de 17,4 millions. En ce qui concerne les vaches laitières, c'est-à-dire allaitantes, entre 1980 et 2022, on a perdu près de 6 millions de têtes. La jersiaise est d'environ 15 000 vaches sur le territoire de la France et la normande 345 000. Ce sont des différents chiffres trouvés sur site Statistista et WebAgri.
Les vaches allaitantes sont blanc-bleu au nord. À l'est, il y a la charolaise, la limousine, la salaire et l'aubrac. Au sud, il y a la gascogne. Et à l'ouest, il y a la rouge des prés. La production allaitante. La particularité de la vache allaitante, c'est qu'elle est utilisée à la fois pour la viande et pour faire des veaux, puisqu'elle allaite son petit. Côté transformation, nous allons faire de la viande de bœuf, steak, côte de bœuf, etc. Soit c'est un boucher qui fera la transformation, ou l'agriculteur, dans son labo, le fera. Le parcours. La viande va démarrer à la ferme, où le bétail sera engraissé, puis va aller à l'abattoir, ou soit à la ferme.
La vache laitière. Elle va être utilisée pour son lait, et par différence à l'allaitante, elle ne va pas allaiter son veau. Avec le lait, on peut faire des yaourts, du fromage ou de la glace. Le parcours. À la ferme, le lait sera envoyé au tank, puis soit il sera transformé directement au labo, ou soit un camion va venir le chercher, et c'est eux-mêmes dans les usines qui feront la transformation. La reproduction. La reproduction se fait soit naturellement, avec le taureau, ou soit nous allons utiliser des paillettes, c'est-à-dire des spermatozoïdes du taureau qui seront inséminés directement sur la vache. Mais les paillettes se font par rapport à la demande de l'agriculteur, c'est-à-dire un taureau peut être noté moins, c'est-à-dire négatif, ou soit plus, positif. Cela fait que l'agriculteur peut choisir sa différente gamme. Si nous voulons faire un troupeau qui évolue dans le temps, nous prendrons un mâle positif sur une vache positive, c'est-à-dire par exemple, nous pourrons retrouver les sexiers ou limousins. Si nous voulons faire un troupeau qui n'évolue pas, nous ferons, on va dire, au hasard. C'est-à-dire qu'on peut prendre soit un négatif ou un positif sur un mâle taureau, et ensuite nous inséminerons sur une vache où elle sera soit positive ou négative. Ce qui fait que le veau, si on veut faire un troupeau qui évolue, le veau sera plus costaud et plus gros. La jersiaise est originaire de l'île Chausey et a été importée en France dès le XVIe siècle. Nous la retrouvons particulièrement vers l'ouest de la France, un peu vers l'est aussi. On la reconnaît grâce à sa petite taille, sa couleur faune, grâce à ses grosses mamelles et ses oreilles pendantes. Sa taille varie entre 1,23 m et 1,30 m, selon le sexe. Son poids est de 400 kg pour les femelles et de 650 pour le mâle. Sa caractéristique est que c'est une crémière et que c'est assez rare dans les troupeaux. Elle produit un lait d'un taux protéique élevé. Sa production principale est de faire du lait, de la production de glace, du fromage et des yaourts.
La normande. La normande est issue de trois races. La cotentine, l'argeronne, c'est-à-dire venue du pays d'Auge, et la cauchoise, venue du pays de Caux. Cette alliance de trois terroirs normands est née au XVIIIe siècle. On reconnaît une vache normande grâce à sa tête blanche et ses lunettes, car ses yeux sont cerclés de pelage marron. Son dos est long. Et sa robe a trois couleurs, caille, blonde, noire ou bringée. Son poids varie selon son genre. Pour une femelle, la hauteur du garrot est de 144 cm pour un poids adulte, de 700 à 800 kg. La hauteur sous garrot du mâle est de 155 cm pour un poids de 900 à 1100 kg. La vache normande est une vache qui est reconnue par sa production laitière et pour sa viande. Son lait est principalement riche, mais aussi en matière grasse qu'en matière protéine. Il est recherché par les transformateurs et pour la réputation de fromage, beurre
et crème de Normandie. Sa viande est très appréciée pour sa saveur et son persillé.
Ah bonjour, je m'appelle Zanine Defer.
Bonjour, je m'appelle Lucine.
Et aujourd'hui, nous sommes à la Lande de la Rencontre et nous allons interviewer le chef d'exploitation.
Bonjour, donc Laurent Douard, le directeur de l'exploitation du lycée de Saint-Aubin. Donc moi, j'ai fait des études agricoles. Donc en fait, j'ai un diplôme d'ingénieur agricole. Ensuite, j'ai travaillé en tant que conseiller pour des exploitations. Et puis ensuite, je suis devenu donc enseignant. Et donc depuis le mois de septembre 2023, je suis donc responsable de l'exploitation à Saint-Aubin. Voilà, je suis en charge de gérer donc le fonctionnement de l'exploitation, c'est-à-dire la gestion des troupeaux bovins et ovins, et également la gestion des deux salariés qui travaillent sur l'exploitation.
Combien avez-vous de têtes bovins et ovines ?
Alors aujourd'hui, nous avons environ 60 vaches allaitantes, donc environ 60 vélages par an. Et puis une cinquantaine de brebis de race lande de Bretagne.
Quelle race de vache avez-vous ?
Alors du coup, les bovins, donc sont des vaches de race blonde d'Aquitaine.
Et pourquoi ce choix-là ?
Alors c'est un choix historique en fait sur l'exploitation. Donc ça date des années 2000. Les premières vaches sont arrivées vers les années 2000 en provenance d'élevages qui étaient dans le secteur. Et donc ensuite, le choix a été fait de conserver cette race blonde d'Aquitaine.
Que pensez-vous des différentes races comme la jerseyaise et la normande ?
Alors là, on est plus sur des races... la jerseyaise, plus sur une race laitière, avec donc notamment des taux, notamment TB, qui sont très bons. C'est pour ça que souvent, elle est élevée pour son lait très gras. Et l'autre, la normande, on est plus sur une race mixte, même si elle est quand même beaucoup élevée aujourd'hui comme vache laitière. Mais l'intérêt, c'est qu'elle peut... en vache de réforme, avoir des carcasses qui sont quand même intéressantes à valoriser pour les agriculteurs.
Quels critères vous semblent-ils utiles pour avoir une bonne vache ?
Ah, alors je suis pas sûr que la race soit toujours le critère premier qu'il faille prendre en compte, hein, puisqu'en fait ce qui est important c'est de sélectionner les animaux qui sont adaptés en fait au type d'élevage qu'on a. Alors bien sûr il faut choisir si on veut faire de l'allaitant ou du lait, mais au-delà de ça ensuite c'est surtout sélectionner les animaux qui semblent mieux se comporter par rapport au système d'élevage qu'on a, c'est-à-dire notamment l'alimentation, le type de pâturage, éventuellement les problèmes au niveau des aplombs et puis des boiteries, etc.
Est-ce que vous voulez vous faire un troupeau qui va évoluer ou pas ?
Ah bah, de toute façon, on choisit les taureaux en fonction des qualités aussi des vaches. Hein. Enfin, donc, comme tout le troupeau est en insémination artificielle donc, et que tous les animaux sont inscrits, c'est-à-dire qu'on a leur index, notamment toutes les mères, donc on essaye avec le choix des taureaux de corriger en fait les défauts des mères pour avoir du coup derrière des femelles de renouvellement qui aient des qualités plus équilibrées en termes de développement musculaire, développement squelettique. Et puis on choisit aussi en fonction du comportement de l'animal, hein, c'est-à-dire de sa docilité, qui est un critère important pour le choix des femelles de renouvellement.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci à vous.
Bonjour, nous sommes Ossan et Luna. On va vous parler des chèvres appelées dans notre filière caprin. Nous allons vous parler des différentes races de chèvres locales. Nous allons prendre pour exemple trois races de chèvres. La chèvre des fossés, communément appelée chèvre commune de l'Ouest, elle provient de la Normandie et de la Bretagne. Cette chèvre prenait autrefois sa nourriture sur les bords des routes, d'où elle tire son nom. Elle est de taille moyenne et a une couleur variable.
La chèvre ossanienne est originaire de la Suisse et a par la suite été exploitée dans toute la France. Elle est de grande taille. La chèvre alpine est répandue dans toute la France entière. Elle a un poil ras, une taille moyenne et une robe brune et noire. Et elles sont toutes les trois utilisées pour le lait. La Bretagne compte plus de 3600 chèvres laitières réparties dans plus de 50 élevages. Il y a un bouc adulte pour 20 à 25 femelles. Chaque chèvre ne fait des petits au maximum qu'une fois dans l'année. En moyenne, il y a 2 chevreaux par portée, avec sur la totalité des naissances, à peu près autant de mâles que de femelles. L'espérance de vie d'une chèvre est de 15 à 18 ans. Le cheptel caprin de France compte environ 1 200 000 têtes, dont 800 000 chèvres.
Bonjour, nous sommes Justine, Célian et Alexandre. Nous avons choisi notre sujet qui se porte sur l'avenir en agriculture. Pour commencer, nous aimerions nous donner une idée générale du métier.
Pour s'installer, il faut un brevet professionnel responsable d'entreprise agricole ou un bac pro CGEA, conduite et gestion d'une entreprise agricole, c'est-à-dire celui que nous préparons.
Nous avons envie de devenir exploitant agricole parce qu'on aime ce métier. C'est même une passion pour certains et certaines. D'autres ont un fort besoin de travailler en extérieur et de se dépenser dans un milieu qui nous plaît. Ce qui nous plaît, c'est le fait d'être actif et d'être en contact avec les animaux, de prendre soin d'eux, mais aussi de conduire les machines agricoles, puis de suivre l'évolution des cultures que l'on prépare, de la semence à la récolte. Ce qui nous donne encore plus envie, c'est le fait de nourrir l'humain. Mais surtout, avoir sa propre exploitation est un atout, car nous pouvons faire nos choix, et non ceux d'un ou d'une chef. Personne ne nous oblige à rien et nous dicte ce qu'on doit faire.
Nous avons tous les trois pour objectif de nous installer en Bretagne, car nous préférons rester dans l'environnement où nous apprenons notre métier et où nous avons découvert énormément de choses. Notre ferme idéale est une ferme robotisée, c'est-à-dire avec avoir des robots de traite pour le bétail, des robots qui repoussent l'alimentation sur la table d'alimentation des bêtes. Cela permet en effet un gain de temps et une meilleure qualité de vie.
Alors on vous entend d'ici. Vous vous demandez pourquoi des jeunes de 16 ans rêvent de devenir exploitants et exploitantes agricoles. C'est vrai, on est en pleine crise agricole, ce n'est pas un métier facile, c'est le moins que l'on puisse dire. On pourrait au moins se contenter d'être salarié agricole, ok, mais quand on s'installe, on peut avoir des aides.
Les agriculteurs bénéficient pendant les 5 premières années qui suivent leur installation d'une diminution de leur cotisation sociale. 65% au titre de la première année, 55% à la deuxième, 35% à la troisième, 25% à la quatrième et 15% au titre de la cinquième année. La dotation jeune agriculteur, DJA, est une aide en capital financier à 80% par l'Union européenne et 20% par l'État. Son montant varie selon la zone d'installation, la nature et l'ampleur du projet.
Les inconvénients. Les inconvénients de s'installer sont que le peu de problèmes, c'est à nous de gérer, c'est à nous que ça arrive, alors qu'en tant qu'ouvrier, cela ne nous concerne pas. C'est à nous de gérer les problèmes de l'exploitation. Il est aussi compliqué d'avoir une qualité de vie et du temps pour soi.
Les avantages sont qu'on est libre de nos choix, libre de nos productions.
Pour nous, les productions les plus rentables sont le colza, le tournesol, le soja, le blé et l'avoine. Et les élevages les plus rentables sont la volaille, les porcins et les caprins.
On vous propose d'écouter l'interview de Anthony Delaunay, éleveur en Ille-et-Vilaine.
Bonjour.
Je me présente, je m'appelle Célian et puis je suis avec...
Justine.
Donc en premier, est-ce que vous pouvez vous présenter?
Donc Anthony Delaunay, éleveur sur la commune de Maine-Rotte.
Pourquoi avez-vous décidé de vous installer?
La passion du métier déjà avant tout. C'était une reprise derrière mes parents à l'époque, quoi.
Ensuite, quel est l'élevage et les productions qui vous intéressent le plus?
Alors nous, on fait surtout de la vache laitière, on a 100 vaches laitières, sur 110 hectares, dont 30 hectares de céréales.
Et vous êtes en robot?
Oui, deux robots de traite, oui.
Quelle étude avez-vous fait?
Il y a un bac pro CGEA.
Ah oui,
d'accord.
Nous. À Saint-Thomas?
C'est tout?
Non, j'avais fait la maison familiale de Fougères.
Ensuite, quel changement avez-vous remarqué depuis le début de votre vie professionnelle, enfin depuis que vous vous êtes installé?
C'est des changements environnementaux, beaucoup. Beaucoup de normes de contraintes environnementales et une obligation de se spécifier vraiment dans quelque chose, quoi. Devenir vraiment très bon techniquement, quoi.
Que faudrait-il mettre en place pour que les agriculteurs et agricultrices vivent de leur travail sereinement?
Établir un prix plancher de vente.
Et ensuite, dernière question, comment vous voyez l'avenir, vous?
Moi, honnêtement, je vois des fermes rachetées par Agrial, des trucs comme ça, des sacrées fermes. Contrairement à ce que dit l'État.
Bon, en tout cas, merci beaucoup, monsieur.
Eh ben, de rien.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Notre émission touche à sa fin.
Merci à nos professeurs, Madame Canton et Madame Géhou, ainsi qu'à Morgane et Léonard de Canal B, de nous avoir aidés durant ce projet.
Vous retrouvez cette émission en podcast sur le site de Canal B.
canalb.fr sur le blog des ateliers radiophoniques.
C'était un plaisir pour nous de vous avoir fait découvrir notre univers.
Au revoir et à bientôt sur Canal B.
Les ateliers radiophoniques de Canal B.
Canal B, radio curieuse. Elle est un instant.